Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nous sommes en compagnie de l'écrivain et journaliste Marc Wetzmann qui publiera à la rentrée Un temps pour haïr. À côté de vous, Marc Wetzmann, Olivier Cohen, directeur et fondateur de la maison d'édition de l'Olivier, une maison d'édition où il y a beaucoup d'auteurs de littérature américaine. Et on va écouter justement la voix de Tom Wolfe.
Compare now the novelist, I work backwards.
Comparé à d'autres romanciers, je travaille à l'envers.
I first look for a...
D'abord, je cherche une situation intéressante, de préférence une qui n'ait pas été dans les journaux, dans les infos, quelque chose de laquelle personne ne sait grand-chose, moi non plus d'ailleurs. Même dans les romans, la grande partie de ma vie, j'ai écrit de la non-fiction en tant que journaliste, apparemment. Plutôt dans ma carrière, j'étais dans les joies du reportage, aller voir des choses sur place, des choses que personne ne connaissait, personne ne savait.
La voix de Tom Wolfe et une réaction Olivier Cohen sur la manière dont Tom Wolfe écrivait sur ce qu'il a apporté à la littérature. On a beaucoup parlé de Gonzo Journalisme, une manière de faire vivre le journalisme, de le tirer vers la fiction. Votre réaction et votre sentiment par rapport à ça?
Alors, moi j'ai toujours adoré les reportages de Tom Wolfe. Je me souviens dans les années 70, le magazine Rolling Stone publiait au fur et à mesure de ces livraisons, tous les 15 jours, des grands reportages qui allaient devenir des livres, d'ailleurs. Et c'était formidable, parce que ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on pouvait lire dans les journaux en France et même aux États-Unis.
Pourquoi?
Mais alors, parce qu'il y avait un ton personnel, une insolence, une manière de raconter, aussi un sens du comique, qui n'est pas particulièrement recherché dans le journalisme sérieux. En revanche, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il était un grand écrivain. C'était un écrivain tout à fait honorable. Il a écrit de très bons livres, il a écrit de moins bons. Mais je pense qu'il ne boxait pas dans la même catégorie que, je sais pas, Philip Roth, Saul Bellow, Cormac McCarthy, Don DeLillo. Je n'arrive pas.
Pas un grand écrivain, ça veut dire quelqu'un qui racontait de bonnes histoires, mais dont le style n'était pas aussi fouillé qu'il aurait dû l'être.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que c'est un grand écrivain? Je ne sais pas comment on peut le définir. On peut dire c'est un artiste qui a une vision à lui qu'il développe en inventant des formes adéquates à cette vision. Je pense que Tom Wolfe n'a pas suivi cette route-là. C'était d'ailleurs ce qu'on vient d'entendre. C'était un écrivain opportuniste. Qui savait manier le langage, mais qui n'a pas inventé de forme littéraire originale. En revanche, dans le journalisme, il a fait exploser un style un peu compassé, une manière de se prendre trop au sérieux, qui était extrêmement agaçant, et il a fait progresser le journalisme, je suis sûr. Mais vous savez, je pense que Tom Wolfe, c'est un écrivain pour journaliste, c'est-à-dire que comme dans le cœur de tout journaliste, il y a le rêve d'écrire un grand roman. Eh bien, on peut dire bon, il l'a fait, hein, mais il n'apporte pas, puisqu'on parlait de Philip Roth, il n'apporte pas cette vision, on pourrait dire cette radiographie de l'être humain qu'on trouve chez Roth, chez Kundera, chez tous les écrivains, les grands écrivains.
Qu'est-ce que vous en pensez,
Marc? Oui, je suis entièrement d'accord sur l'aspect grand écrivain de Tom Wolfe. Je pense que c'est quelqu'un qui n'avait inventé ni forme ni c'est des faux grands livres, quoi. Mais je dirais même plus sévère. Je pense qu'il n'a pas inventé tant de choses que ça dans le nouveau journalisme non plus, parce qu'il est arrivé après des gens comme Norman Mailer, après des gens comme John Didion, qui ont vraiment, eux, cassé les codes complètement. Ce qu'a fait Tom Wolfe dans les années 70 en termes de nouveau journalisme, Norman Mailer l'avait fait de manière beaucoup plus séditieuse dans un bouquin comme Les Armées de la Nuit, par exemple, dans les années 60, où il a vraiment cassé les codes du journalisme, et c'est de manière incroyable, et inventer une forme, parce que c'était, Norman Mailer était, lui, un grand écrivain, et que même quand il faisait du journalisme, ça devenait de la littérature. Alors que Tom Wolfe, c'est le contraire, même quand il fait de la fiction, ça reste du journalisme un peu brillant, mais ça va pas tellement plus loin.
Est-ce que, par exemple, vous ne lui pardonneriez pas d'être un peu réac, puisque Tom Wolfe était réac?
Non, c'est le contraire. Je pense qu'il était réac.
Vous trouvez qu'il n'était pas assez réac?
Non, je pense qu'il était réac parce qu'il n'était pas si bon que ça.
Voilà, ça, c'est un jugement que je vous laisse, mais que partage peut-être Olivier Cohen.
Non, parce que je pense.
Non, ce qu'il faut expliquer, c'est que Tom Wolfe était donc quelqu'un de très engagé politiquement, pas au sens où il avait un engagement partisan, mais sa plume était une plume républicaine au sens américain du terme.
C'était un écrivain satirique, et les cibles préférées de sa satire, c'était les gens de gauche et les ridicules des gens de gauche et des gauchistes. Pourquoi pas? Mais
dans le bûcher des vanités, il y a quand même aussi certains youpis, pas forcément à gauche, qui voient leur caricature assez sanglante exposée dans ces pages.
Oui, c'est vrai. Mais vous venez de prononcer le mot clé, c'est caricature. Mmh. C'est-à-dire, c'est un auteur de caricatures. Et des caricatures souvent très réussies. Mais puisqu'on parlait tout à l'heure de la tâche de Philip Roth. Je pense que la grande différence, on la voit.
Qui est un grand roman, peut-être pour rappeler en trois mots de quoi parle la tâche.
Tu veux en dire un mot, Marc ?
Vas-y. Moi, je vais en dire deux mots. C'est l'histoire d'un professeur d'université qui est injustement accusé de racisme. Et Philip Roth met en scène cela sur fond donc d'Amérique clintonienne, avec un certain nombre de commentaires sur le politiquement correct et une charge contre le politiquement correct.
Oui, mais c'est une charge qui n'est pas satirique. C'est un livre tragique, en fait.
Mais c'est un livre qui, par certains aspects, est aussi très drôle.
Oui, mais vous avez raison, mais il y a toujours de l'humour chez Roth. Mais pour moi, c'est un livre, déchirant. Et je le rapprocherais plutôt d'un auteur comme Coetzee, par exemple, que d'auteurs qui sont carrément satiriques et qui s'attaquent au politiquement correct.
Peut-être là aussi situer Coetzee, un auteur sud-africain.
Oui, Coetzee, c'est un des plus grands écrivains de notre époque. Il a eu le prix Nobel. Et il a écrit dans la première partie de sa vie des textes qui étaient, je crois, assez politiquement engagés. Mais progressivement, il s'est rapproché d'auteurs... ce que j'appelle le sens du tragique, hein, c'est-à-dire l'inéluctabilité du destin des êtres qui sont plongés dans des situations insupportables et qui vont jusqu'au bout. Dans ce sens, je pense que certains de ses livres sont proches de l'œuvre de Roth.
Marc Witzman.
Oui, sur le politiquement correct, la différence, c'est entre quelqu'un comme Tom Wolfe et quelqu'un comme Roth, c'est que Tom Wolfe se limite à la caricature des gens de gauche, parce que ça va pas tellement plus loin. Ce que fait Roth dans un livre comme La Tâche et dans d'autres d'ailleurs, c'est qu'il montre incidemment, il utilise la politique pour montrer dans ses fictions pour montrer que le politiquement correct et le conservatisme réactionnaires sont renvoyés au même dans le même camp, en fait. C'est-à-dire que c'est deux formes de moralisme qui cherchent à limiter l'être qui cherchent à étiqueter les gens. Et ce que fait certainement Roth dans La Tâche, c'est de montrer que les gens ne sont pas des individus forts, ne sont pas réductibles à une identité. L'un des points centraux dans la tâche, c'est que le personnage central, Coleman, est en réalité un noir, mais ça ne se voit pas. Il a la peau blanche et il dit qu'il est juif. C'est l'histoire de quelqu'un qui ne se laisse pas enfermer dans une identité, et c'est la vraie raison pour laquelle tout le monde lui tombe dessus dans le livre. Les gens politiquement corrects, comme les conservateurs. Et je crois que c'est en ce sens que Roth est aujourd'hui vraiment contre le courant contemporain aujourd'hui, c'est que c'est vraiment l'écrivain anti-identitaire de ce point de vue. Il montre dans tous ses livres comment les êtres ne sont pas réductibles à ce qu'on peut dire d'eux, à ce qu'on peut penser d'eux, et à la manière dont on peut les définir, dont la société les définit. Voilà. Ça, c'est vraiment, pour moi, le cœur de ce qui fait que son œuvre reste plus que jamais séditieuse aujourd'hui, où on est au contraire dans une époque d'affirmation identitaire délirante, dans tous les sens.
Olivier Cohen, vous qui avez édité beaucoup de littérature américaine, qu'est-ce que ces deux auteurs, plus généralement la littérature américaine, a apporté à la littérature mondiale? Pourquoi tant d'insistance sur l'importance de la littérature américaine?
Ah, oui, vaste sujet, mais...
Sujet qui est aussi au cœur des commentaires qui ont été provoqués par la disparition de ces deux écrivains.
Oui, ce qui est curieux, c'est que bon, c'est une question importante, intéressante, mais c'est un peu curieux de la poser au sujet de ces auteurs-là, parce que je me souviens que Roth avait écrit un article que Le Monde avait publié, il me semble, où il essayait de se définir, et il disait je ne suis pas un écrivain juif, je suis un écrivain américain. Et je dirais aujourd'hui, c'est un écrivain américain universel. Oui. Et là, il a eu une énorme influence, et il a encore une énorme influence sur la littérature américaine. Il est de ce point de vue, il est une sorte de fils spirituel de Saul Bellow, mais il a lui-même engendré des fils et des filles.
Qui, par exemple, des noms?
Oh, bah écoutez, alors ça va de... Il y a, je sais pas, Gary Steingart, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss, dont le New Yorker a publié hier online un texte absolument extraordinaire où elle raconte sa rencontre avec lui. Des gens...
Sa rencontre avec Philip Roth.
Oui, oui. Des gens auxquels on ne s'attendrait pas. Et je pense que ça montre l'importance universelle de cet écrivain. Et qui, je dirais exactement ce qu'a dit Mark Weitzman à l'instant. C'est-à-dire que c'est un appel à la liberté de l'artiste, la liberté de l'écrivain, et aller le plus loin possible en exerçant cette liberté.
Mark Weitzman. Oui. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'était notre commandant en chef à tous. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui avec les témoignages qui sortent effectivement dans la presse américaine de tout le monde. Hein. C'est rare, c'est même, je crois, unique, qu'il y ait une telle marée de témoignages longs, développés, est vraiment ému de la part de tous ceux qui l'ont connu, et en particulier de la part des écrivains. Parce que je crois qu'effectivement, moi inclus, hein,
dans votre écriture, à vous, Mark Weitzman, dans les thèmes que vous abordez, qu'est-ce qu'il y a?
Non, c'est pas tellement dans les thèmes, c'est plutôt dans le...
Il y a souvent des intellos juifs dans vos...
Non, mais je crois que c'est plus dans une... Zadie Smith, par exemple, a écrit un très long article sur Roth dans le New Yorker l'autre jour, elle n'est pas particulièrement juive. C'est pas tellement le sujet.
De vos livres, à vous.
De mes livres. Oui, mais non, je crois que ça vient de... C'est ce qui compte dans le... Pourquoi c'est une référence pour nous tous, c'est ce qu'on vient de dire là. C'est à cause de cette très haute exigence mêlée de totale... c'était flagrant quand on le rencontrait, de totale spontanéité, de totale de vie. C'est-à-dire que c'est pas une exigence mortifère, quoi. C'est pas le côté... Il n'y a pas ce côté qu'on trouve tellement chez tant d'écrivains, y compris... Enfin, surtout ici. C'est qu'il y a pas ce côté compassé. Attention, on fait de la littérature avec un grand L, c'est quelque chose de... On rentre dans un temple où il faut se déchausser et on ne sait pas ce qu'on va trouver au bout. Roth représentait une forme de littérature, enfin une attitude vis-à-vis de la littérature littérature qui était une attitude vis-à-vis de la vie et qui était l'exigence et la discipline peuvent aller avec la plus totale liberté.
Oui,
Olivier Cohen.
Pour revenir à la question que vous posiez sur l'attraction qu'exerce la littérature américaine et même l'espèce de légende qui l'entoure, je crois que c'est très très lié à cette question du rapport entre l'écriture et la vie.
Oui.
Et il y avait une expression, un critique de cinéma disait à propos d'un réalisateur de cinéma, non, c'est pas bon ce qu'il fait, c'est du cinéma filmé. Eh bien, on pourrait dire que en Europe, il y a une tradition qui n'est pas très attrayante, qui est celle de la littérature écrite. Or, la littérature plonge ses racines dans la vie. C'est une investigation, la littérature.
Voilà,
c'est une enquête sur l'être humain.
Bon, mais alors ça, Tom Wolfe, vous avez eu tous les deux la dent plutôt dure,
oui,
à l'égard de Tom Wolfe, mais il n'arrêtait pas d'insister là-dessus.
Ah oui, mais attendez, quand je parle d'investigation, je parle de... il faut prendre en compte une intériorité, pas seulement la surface des choses.
Hein, et bien entendu, mais enfin, c'est quelqu'un qui était vraiment plongé dans la vie, qui...
Oui, mais
c'est pas la même vie.
Ce qu'on essaie de dire...
C'est pas la bonne vie, d'après vous.
Non, mais ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a un investissement subjectif. Roth était un écrivain, dans certains de ses livres, il a parlé beaucoup de politique, mais c'était un écrivain qui était investi subjectivement dans tout ce qu'il faisait. Il pouvait pas écrire un livre sans qu'il y ait un investissement de son être intime. Ce que ça veut dire... se compromettre soi-même dans ces sujets, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire que rien n'est acquis pendant l'écriture. Cet investissement-là, c'est en ce sens qu'il y a une liberté qui n'est pas juste une liberté d'expression, mais qui est une liberté d'expérimentation individuelle. Se prendre soi-même comme lieu d'expérience existentielle. Ou expérimenter le monde, quoi, et voir ce que ça donne comme résultat littéraire.
Olivier Cohen.
Oui, on sait que il y avait un lien entre Roth et Kundera. C'est Roth qui a fait publier aux États-Unis l'insoutenable légèreté de l'être, ainsi que d'autres textes écrits par des écrivains tchèques.
Et il a aidé beaucoup d'écrivains tchèques.
Oui, oui. Mais il me semble que ce qui le rapprochait de Kundera, c'était justement cette idée que la littérature est une forme d'expérimentation. C'est-à-dire, on réunit deux personnages, X et Y, on leur donne telle ou telle caractéristique, et ensuite on regarde qu'est-ce que ça donne. Et c'est ça le roman. Le roman, c'est expérimenter sur le vivant.